Bonjour à tous. Merci de votre accueil pour partager ensemble la parole de Dieu. Vous savez, il y a parfois des situations, des moments où on a du mal à trouver les mots pour dire ce qu'on a envie d'exprimer. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais c'est très embêtant quand c'est un prédicateur qui a le problème. Mais compte tenu du sujet que je vais aborder ce matin, vous allez comprendre pourquoi c'est difficile. Tu veux mettre le titre, il s'agit de la sainteté. La sainteté de Dieu. On a chanté « Dieu est saint ». Dieu est trois fois saint. Trois fois, ça veut dire que c'est quelque chose qui est affirmé par l'Écriture, affirmé par la parole de Dieu. Dieu est saint. Dieu est le Dieu saint. Et vous savez, la difficulté des mots, c'est que nos pensées sont véhiculées par des mots. Mais on va essayer de le faire quand même. On va faire l'effort. Faites comme si je vous disais un mot, vous ne savez même pas ce que ça veut dire, vous n'avez jamais entendu ce mot. Et pourquoi ? Parce que dans notre culture populaire française, aujourd'hui, ce mot ne correspond pas du tout au sens biblique. Et c'est pourtant ce contexte culturel qui influence notre compréhension du texte biblique et du mot biblique. Le sens donné à ce mot dans notre culture, c'est influencé par une tradition religieuse, c'est le mot « saint » qui est réservé à des grands personnages exceptionnels, généralement morts. Ça donne l'idée de quelque chose d'inaccessible, parce qu'il faut être mort. C'est inaccessible au commun des mortels. C'est un summum d'une vie morale, d'un absolu, tellement élevé, tellement étranger. C'est pas pour moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pourtant, l'Écriture, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, toute l'Écriture appelle le peuple de Dieu à la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire, être saint? Par exemple, dans ce texte de l'apôtre Pierre, cet appel de Pierre lancé aux chrétiens qui vivaient en Asie, il leur dit « Mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. » Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car moi, je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui, impartialement, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Alors le mot exil ici, c'est une image pour parler de la vie des chrétiens, de ces chrétiens qui vivaient en Asie, qui vivent dans un monde hostile. Dans un monde difficile, hostile à l'Évangile, comme nous aujourd'hui. Pierre cite l'Écriture ici. Il cite l'Ancien Testament. « Vous serez saints, car moi je suis saint. » C'est une parole du livre du Lévitique. Et en fait, c'est un refrain du livre du Lévitique. C'est quelque chose qui est répété encore et encore dans ce livre. Et pour comprendre ce que Pierre, dans le Nouveau Testament, nous enseigne sur la sainteté, on doit donc se tourner vers l'Ancien Testament. Et regardez comment la sainteté était comprise dans ces textes, dans le Lévitique. Et dans le Lévitique, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Dieu a fait alliance avec ce peuple, qu'il vient de délivrer, qu'il vient de créer en tant que nation, en tant que peuple. À travers cette alliance, ce peuple peut s'approcher de Dieu, peut connaître Dieu, peut lui rendre un culte, mais sous certaines conditions. Et ces conditions, c'est ces conditions que Dieu va donner à Moïse et que l'on trouve dans la loi. On trouve donc le récit du don de la loi dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, si tu veux mettre le texte. Et le but de cette loi, c'est que le peuple de l'Alliance rende un culte au seul vrai Dieu et fasse connaître ce Dieu à toutes les nations. Regardez, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur les ailes d'aigle, je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. La question pour ce peuple, peuple de l'Alliance, c'est comment s'approcher de Dieu? Comment servir ce Dieu unique, ce Dieu suprême, au milieu de toutes les autres nations, avec leur multitude de dieux? Comment servir ce Dieu à qui tout appartient et le représenter en tant que nation sainte, en tant que peuple de prêtres, royaume de prêtres? Comment entrer en relation avec lui? La réponse, c'est ça, c'est « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Un peuple entier, témoin de Dieu, qui porte cette relation spéciale avec Dieu au sein de l'humanité. Et comment? Vous serez saints, car je suis saint. Et dans le Lévitique, vous savez, c'est un complément du livre de l'Exode. Dans le Lévitique, on voit comment la loi va être pratiquement, concrètement mise en œuvre par le peuple. Comment faire? C'est un mode d'emploi, en fait. On voit l'entrée des prêtres dans leurs fonctions. On voit le fonctionnement dans le détail du tabernacle, ce temple transportable. On voit dans le détail les rites, les règles qui doivent être mises en œuvre par le peuple pour s'approcher de Dieu. Et il ne s'agit pas simplement de règles rituelles, des choses à accomplir en rapport avec un culte dans un temps, un lieu particulier, mais il s'agit de lois dans les relations de ce peuple les uns avec les autres, et les relations du peuple avec les autres peuples, avec l'étranger. Il y a donc des lois rituelles, il y a des lois civiles, les lois d'une nation, et puis les lois morales, les lois éthiques, de comportement. Et avec au cœur de cette loi, ce grand commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Toute la vie du peuple, au quotidien, dans les moindres détails, est liée au culte du Seigneur. Parce que c'est le peuple, un peuple de prêtres, c'est un peuple qui est une nation sainte. Alors on voit, bien sûr, le lien direct avec nous, dans notre relation avec Dieu. Avec Dieu le Père, en Jésus, notre Seigneur. Cette relation dont les Épîtres parlent, dont Pierre parle. Et Pierre, il commence son Épître par cette réalité du salut en Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous n'avez pas vu le Seigneur, mais vous l'aimez. Maintenant, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui, et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Le salut de Dieu. Il en utilise des mots pour parler du salut de Dieu. Que nous puissions laisser ces mots pénétrer dans nos pensées et toucher nos cœurs. La grandeur de ce salut. Parfois, vous n'avez pas l'impression, en lisant les Épîtres, que les apôtres, ils n'arrivent pas à trouver les mots pour dire « joie indicible et glorieuse ». Ils cherchent des superlatifs, des choses pour parler de ce salut merveilleux que nous avons reçu. Et ce salut en Jésus-Christ, qui nous est donné par la foi, Pierre sait qu'il en était question dans l'Écriture, qu'il était annoncé avant. Et il le dit au verset 10, regardez, juste après. ce salut, ce salut-là dont il vient de parler. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle est l'époque et quelles circonstances désignaient l'esprit du Christ qui était en eux, esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Ce salut que nous avons reçu, ce salut qui est venu historiquement en Jésus-Christ il y a 2000 ans, ce salut-là, il était préparé d'avance. L'Esprit du Christ était en œuvre, à l'œuvre, dans ceux qui ont prophétisé. Et toutes ces lois, tous ces rites, tout ce que l'on trouve dans le Lévitique, annonce ce salut que nous avons reçu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre peut citer l'Ancien Testament. Il peut citer Moïse. Il peut citer l'Exode, le Lévitique. Parce que toutes ces choses annonçaient le salut accompli par Jésus. Ce salut que nous avons reçu. Ce salut qui fait que nous, désormais, nous sommes le peuple de l'Alliance, de la nouvelle Alliance en Jésus. Un peuple saint. Et il reprend exactement, mot pour mot, ce que Moïse dit à Israël. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal ou un royaume de prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Il écrit à des non-juifs, en majorité. Comme nous. Une nation sainte, un royaume de prêtres. Donc en lisant le Lévitique, non seulement on peut comprendre ce qu'est la sainteté, mais on comprend aussi ce qu'est le peuple de Dieu, l'Église. Une nation sainte. Et on revient à notre question, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Et en lisant le Lévitique, on a une chance de reprogrammer notre compréhension, notre processeur, qui peut-être a saisi des mauvaises significations de cette sainteté. Et puis, non seulement corriger, mais aussi nous montrer toute la portée pratique de la sainteté en Jésus-Christ. Il y a dans l'Écriture, un appel à la sainteté. C'est celui de Pierre à ses chrétiens qui fait écho à celui du Lévitique dans l'Ancien Testament, à Israël. Et le nom du livre en hébreu du Lévitique, c'est appel, il appela, vayikra, il appela. C'est un appel à la sainteté qui correspond à l'appel de l'Évangile, à nous approcher de lui, à venir à lui. L'appel de Jésus. S'il y a une conception populaire du mot saint dont j'ai parlé tout à l'heure, on a, nous aussi, parfois, des conceptions populaires, un peu simplistes, de la sainteté. Alors on va partir d'une étymologie, on va dire, ça veut dire « mis à part ». Donc saint, c'est être mis à part pour Dieu. C'est pas faux, mais c'est très incomplet. Et c'est pas l'idée de départ dans le Lévitique. Pourquoi ? Parce que cette idée « je suis mis à part pour Dieu », ça définit la sainteté par rapport à moi. Alors ça nous aide au début. Et c'est une définition qui aide certainement les nouveaux qui commencent à saisir ces mots, ces choses, ces concepts, ces notions qui ont du mal à les saisir. Alors pour essayer de comprendre pratiquement, ah ben oui, c'est être mis à part pour Dieu. Mais c'est pas tout. Et l'Écriture ne définit pas la sainteté d'abord par rapport à moi, mais d'abord par rapport à Dieu. Alors pour être plus précis, on pourrait dire que le mot, cette notion de l'Écriture parle d'appartenance. Saint, c'est appartenir à Dieu. On pourrait dire que que Dieu, dans tout son être, se possède totalement. Tous ses attributs sont entiers en lui. Il est entièrement puissant, entièrement éternel, entièrement infini. Il se possède totalement. Ce n'est pas notre cas de nous posséder totalement. Vous voyez ? Appartenir à Dieu. Ça nous aide aussi à préciser les choses. Alors, je pourrais dire, l'idée de « je suis mis à part », c'est la première marche, on va dire, pour comprendre ce mot. Vous voyez, dans nos conceptions, dans nos compréhensions des choses de Dieu, des fois, on progresse comme ça, par palier, par marche. Alors, c'est la première marche pour comprendre la sainteté, c'est se dire, c'est cette mise à part. Je suis mis à part pour Dieu. Et puis, la deuxième marche, c'est l'appartenance. Dieu est saint parce que tout lui appartient. Il le dit lui-même. Tout m'appartient. Et on commence à définir la sainteté par rapport à qui est Dieu. Et non pas par rapport à nous-mêmes. Dire Dieu est saint, c'est dire Dieu est Dieu. Dieu est saint dans son caractère. Dieu est saint dans sa nature même. Et c'est cet attribut divin qui dit que tout ce qui peut s'approcher de Dieu doit être saint. C'est cette nature divine qui fait que tout ce qui peut s'approcher de lui doit être saint. Pour pouvoir le servir, pour pouvoir lui rendre un culte, pour le connaître, parce qu'il est saint. Et dans le Lévitique, tout ce qui touche au culte doit être saint. Les personnes, les objets, les mobiliers du tabernacle, les offrandes, le lieu, les lieux doivent être saints, selon différents niveaux de sainteté, avec une échelle, avec des degrés du profane au sacré. Et je vous ai fait un schéma, j'espère qu'il est compréhensible. Vous me direz après si ça vous a aidé. Un schéma qui va du profane au sacré. Et les lieux, depuis l'extérieur du camp d'Israël, c'est le profane, le plus loin de Dieu. Et puis il y a le camp d'Israël qui doit être saint. Et puis le tabernacle, l'autel, le lieu très saint, le saint des saints. Il y a des degrés de sainteté. Et selon les degrés de sainteté, selon les lieux, les personnes peuvent s'approcher de Dieu. Alors, l'étranger, vas-y, l'impur, il est à l'extérieur du camp. L'israélite, il est dans le camp. Le lévitique et le prêtre peuvent s'approcher, entrer dans le tabernacle et s'approcher de l'autel. Et le grand prêtre seul peut entrer dans le lieu très saint. Vous voyez cette notion de degré de sainteté dans le lévitique. Et puis les objets doivent être sacrés, doivent être consacrés, sanctifiés, pour pouvoir servir dans le culte. Il y a une pédagogie de Dieu ici. C'est important de comprendre en lisant ce livre l'aspect pédagogique de ces choses, de ces pratiques, de ces rites. C'est un appel à s'approcher, un appel à venir, à être un peuple saint, d'adorateurs. Mais Dieu est saint. Dieu ne peut pas changer sa nature. Dieu ne peut pas réduire la distance qui sépare l'être humain. La distance entre le profane et sacré. Alors pour combler cette distance, pour permettre à l'homme d'entrer dans sa présence, pour permettre à l'homme de l'adorer, il apprend à ce peuple, à travers cette alliance, à s'approcher, à devenir un peuple d'adorateurs. Il apprend à ce peuple à discerner, à reconnaître pratiquement, concrètement, au quotidien, ce qui est pur de ce qui est impur. Regardez, verset 10. Afin de séparer le sacré et le profane, l'impur et le pur, et d'enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que le Seigneur leur a données par l'intermédiaire de Moïse. Ce peuple devait apprendre à distinguer, à séparer. Si l'idée de sainteté est centrale au livre de Lévitique, la notion de pur et d'impur, elle est omniprésente. plus présente qu'ailleurs dans l'Ancien Testament. Se purifier, purifier une personne, purifier un objet, ça revient à se garder de l'impureté. La palisse, on n'aurait pas dit autant. C'est-à-dire que dans la notion de pur et d'impur, il n'y a pas de notion de degré, comme dans la sainteté. Vous voyez, c'est une échelle de progression, la sainteté. Mais dans le pur et l'impur, ce n'est pas ça du tout. Une chose, une personne, elle est pure ou elle est impure. Et l'idée générale de l'impureté, c'est tout ce qui est dégradé par rapport à la vie. Tout ce qui est malade est impur. Tout ce qui est désordre par rapport à la vie. Un écoulement corporel, une tache sur la peau, une infirmité, c'est impur. Tout objet touché par quelqu'un d'impur devient impur. Et rendra impur tous ceux qu'il touche. Il y a une contamination de l'impureté. Toucher un corps, c'est le désordre absolu par rapport à la vie, la mort. Un corps mort, c'est impur. Et on se rend impur en touchant un cadavre. Ce qu'on mange peut être pur ou impur. Et il y a les animaux purs et les animaux impurs. Donc c'est une notion rituelle, l'impureté, dans le Lévitique. Mais aussi, une notion morale. Éthique. Et l'impureté s'appelle alors le péché. Et doit être expié par des sacrifices. L'impureté doit être expiée. Le péché doit donner lieu à une réparation, à une restitution, une expiation. Pour pouvoir être saint et s'approcher de Dieu selon ses degrés de sainteté, vas-y, remets l'image. Et j'ai mis un petit bonhomme avec une échelle, avec une règle. Une règle pour mesurer. On mesure le degré de sainteté. Et on peut s'approcher de Dieu en fonction du degré de sainteté qu'on a acquis. Alors il faut répondre à toute cette liste de critères selon lesquels on sera déclaré pur. On n'a pas touché d'objet ou personne impure. On n'a pas mangé rien impur. On n'a pas fait comme les autres peuples, des choses selon leurs pratiques immorales. Alors c'est un checklist. Vas-y, passe. Le checklist, on check. On peut cocher pur pour toutes ces choses, pour chacune de ces choses, pour les rites, les sacrifices. Et alors, quand tout est checké, on est sanctifié, on est saint. Et donc, on peut venir s'approcher selon son statut sur cette fameuse échelle de sainteté. Selon son statut. L'israélite comme israélite, c'est-à-dire dans le camp, le lévite et le prêtre dans le tabernacle auprès de l'autel, et le grand prêtre dans le lieu très saint, selon son statut, et uniquement selon son statut, sous peine de mort. Mais il y a une pédagogie là, où la sainteté de Dieu, la nature de Dieu, est mise en relation avec le quotidien du peuple de l'Alliance, dans ce discernement à chaque instant de leur vie, du pur ou de l'impur. Un outil pratique. La vie quotidienne du peuple saint. Dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui change? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est saint. C'est sa nature. Le Lévitique nous montre que l'humanité, l'être humain, est impur. Séparé de Dieu à cause du péché, du désordre dans la création. Le péché a été le désordre absolu dans la création. L'introduction de la mort dans la création vivante de Dieu. L'humanité, l'humain, doit se purifier s'il veut s'approcher de Dieu. Il y a cette séparation entre le profane et le sacré. Mais Dieu, par son alliance, permet, sous certaines conditions dans le Lévitique, aux hommes de lui rendre un culte, de s'approcher un peu, selon les limites, dans le temps défini par la loi, dans le lieu, dans le tabernacle, par rapport au tabernacle, et selon le statut. Dans la Nouvelle Alliance, ça ne change pas. Il faut être saint pour s'approcher de Dieu. Ce principe ne change pas, puisque Dieu n'a pas changé. Pour être un adorateur, pour servir Dieu, C'est une condition absolue. Ce qui diffère, c'est le moyen. Comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Comment est-ce que nous sommes rendus saints? C'est plus par des rites et par des sacrifices renouvelés, mais c'est par le seul sacrifice de Jésus-Christ. C'est plus par des pratiques, l'obéissance à des lois, pour tenter d'éliminer l'impureté, mais par la foi seule, on reçoit la grâce de Dieu. Je l'ai imagé pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous avez ce pur et cet impur dans le Lévitique. On check si on est pur dans tous les domaines. Et alors, on peut, selon l'échelle, être déclaré saint et s'approcher selon son statut. Vous voyez, il y a des limites hein, dans le Lévitique. Qu'est-ce qui change dans l'Évangile? Comment être saint? Il n'y a plus cette flèche. Il n'y a plus ça du tout, vas-y. Il n'y a plus ça non plus. Et qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Nous sommes déclarés saints. La sainteté, frères et sœurs, nous est donnée par Christ, par la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher de Dieu librement. Le voile a été déchiré lorsque Jésus est mort à la croix. Vous vous rappelez cette image. Nous entrons librement. Ah ben oui, alléluia. Hein. Merci Seigneur. Hein. Parce que sous le Lévitique, on est mal parti. Hein. Accès total, libre à Dieu, ouvert, écoutez bien, par l'œuvre d'un homme, Jésus. Dieu venu à nous. Par l'incarnation, il a comblé le fossé, la séparation entre le divin et l'humain, entre le profane et le sacré. Par son être, par sa personne, il a comblé la séparation. Et par son œuvre, son sacrifice, il nous sanctifie parce qu'il nous a représentés à la croix. Il a pris notre péché. Et il nous rend participants de cette relation du Fils avec le Père ressuscité. Il nous emmène avec lui dans cette relation et il nous représente aujourd'hui dans le ciel auprès du Père. Alors, nous pouvons venir à Dieu. Il n'y a plus de degrés à franchir pour s'approcher. Est-ce que je suis suffisamment pur ou impur? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je peux vraiment... Non, tu as accès libre. Accès libre à sa présence. Et c'est ce qui change tout dans notre vie, frères et sœurs. Dans la nouvelle alliance en Jésus, sainteté, ce mot saint, contrairement à ce que nous dit la pensée populaire de notre monde, ne signifie plus séparation, ne signifie plus distance, ne signifie plus degré selon les lieux, les personnes, les objets. On n'a plus à se mesurer, mais c'est une relation de l'enfant de Dieu avec son Père en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. En tout lieu, en tout temps. Parce que en Jésus, je suis saint. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Je peux l'adorer. Je peux m'approcher librement. Et je suis devenu l'adorateur absolu parce qu'il a fait de moi un temple, le temple du Saint-Esprit. J'ai plus besoin d'aller dans un tabernacle. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il habite en moi. C'est ce que tout le Nouveau Testament nous dit. Regardez ce que dit 1 Corinthiens. Au chapitre 6, l'apôtre Paul, vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Hébreux 10:10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen, hein, ouais. Rendu saint, on a rempli toutes les conditions, plutôt il a rempli les conditions pour moi. Pour m'approcher de Dieu. Mais cette relation nouvelle que j'ai avec Dieu en Christ, qui fait que par définition même, le chrétien est saint. C'était le nom des premiers chrétiens. On ne les appelait pas chrétiens, on les appelait les saints. D'ailleurs, en sortant de cette salle, vous n'allez pas dire « mon frère, ma sœur, oh, toi qui es saint, au nom de Jésus ». Vous avez le droit de le dire. Mais cette relation nouvelle, à partir de là, à partir de ce moment-là, parce que je suis saint, ça conduit, ça produit un changement dans notre vie. Regardez ce que dit l'Apocalypse au chapitre 22, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais agissez selon votre nature. 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul commence son épître. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ils ont été sanctifiés, ils sont appelés, et nous sommes appelés à être saints, appelés à vivre selon ce que nous avons reçu, cette sainteté, parce que nous avons cette relation avec Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons vivre, être ce que le peuple de l'Ancienne Alliance ne pouvait pas vivre. Donc dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'on trouve la notion de purification. Pas rituel, plus des rites de pur impur, mais du péché. Et on retrouve cette notion de purification concrète dans le quotidien et en particulier dans nos relations. On retrouve ce grand commandement. S'il y a un refrain dans le Lévitique, on retrouve le même refrain dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres. Dans nos attitudes, dans les choses, dans nos paroles et nos actes, dans les détails de notre vie, les uns envers les autres. Avec bien sûr cette formidable parole de Jean dans sa première épître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous purifier. Il nous purifie. Lui le fait. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un changement possible dans nos vies, concret, parce que nous avons reçu cette nature, cette sainteté. D'où cet encouragement de l'apôtre Pierre. Et on revient au texte qu'on a lu tout à l'heure, au verset 13. L'apôtre Pierre écrit « Mobilisez vos facultés mentales ». C'est un appel à vivre selon ce que nous sommes. Mobilisez vos facultés mentales. Réfléchissez, regardez, pensez à ces choses. Soyez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Regardez encore à cette œuvre et à la personne de Jésus. C'est un appel à exercer notre foi. À regarder à Jésus, c'est notre foi dans le salut qu'il nous a donné, que nous avons reçu. De placer notre espérance, non pas en nous-mêmes, mais dans sa grâce. C'est un appel positif, en d'autres termes. Je dis ça parce que parfois, certains chrétiens le vivent comme un fardeau difficile. Et peut-être que, on l'a dit, et je me mets avec vous, je suis un pécheur. Peut-être pas comme ça, mais intérieurement, c'est ce qu'on vit. Je suis un pécheur, je suis indigne de Dieu. Non. Cette sanctification, cet appel à la sainteté, c'est un appel à exercer notre foi dans le salut de Dieu. C'est quelque chose de positif, pas de négatif. À une vie de victoire, parce que cette sainteté nous est donnée au départ. À partir de ce statut saint, alors je peux mettre en œuvre ma foi et vivre concrètement dans mes relations avec les autres, dans mes attitudes et mes comportements, vivre cette sainteté pratique chaque jour de ma vie. Alors arrêtez de dire « je suis pécheur, indigne » et vous commencez à dire « je suis saint en Jésus ». Il a fait de nous ses enfants et venir à lui simplement, librement, par la foi, ça change tout. Et au verset 14, c'est bien ce que l'apôtre dit « comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. » Mais de même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il écrit,
vous serez saints, car je suis saint. Le peuple d'Israël devait apprendre, selon la pédagogie divine, à discerner entre le pur et l'impur, pour comprendre ce que signifie la sainteté de Dieu, à quel point Dieu est saint, la grandeur d'un Dieu saint, qui possède tout, à qui tout appartient, entier, total, dans tous ses attributs. Et ce livre devait susciter crainte, honneur, émerveillement devant la nature d'un Dieu si grand. Et aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, nous vivons dans une génération peut-être qui aurait besoin d'apprendre ce que cela veut dire, Dieu est saint. Mais ce qui doit nous émerveiller encore plus, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous donne, à nous, enfants de Dieu, cette sainteté, d'être saint, de devenir saint. Ça nous est donné en Jésus-Christ, cette nature nouvelle, conforme à la nature divine, et donc dans une relation de communion, d'intimité, dans l'adoration. Ça veut dire, et je le répète, j'insiste, j'enfonce le clou, si on a besoin d'apprendre et écouter la pédagogie divine, ce n'est pas pour pouvoir nous approcher de Dieu, contrairement au Lévitique, pour avoir la sainteté, parce qu'on l'a déjà. Mais on est appelé à grandir dans ce que nous avons reçu. Une croissance, j'ai mis un petit bonhomme avec une flèche, pour vivre pratiquement, concrètement, dans les moindres choses de notre vie, cette sainteté pratique qui se manifeste dans une purification de nos pensées, de nos raisonnements, nos actions, nos sentiments, parce que Dieu le fait en moi. C'est ce que l'apôtre dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Je vais terminer par une image, je ne sais pas si elle est pertinente, appropriée, vous jugerez. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous livre ces choses sur la sainteté, parce que je ne crois pas avoir les mots pour vraiment en parler. Je compte sur le Saint-Esprit ce matin pour le révéler au cœur de chacun. Alors je vais prendre une image. Est-ce que quelqu'un parmi les anciens ici se souvient ce qu'était ce lieu où nous nous réunissons avant qu'il y ait une salle de réunion? Il y avait quoi? Les plus anciens, les jeunes? Moi, je suis trop jeune, vous voyez, pour vous donner une idée. C'était un atelier? C'était un atelier, hein? À Saumur aussi, c'était un atelier. C'était un atelier. Vous avez entendu parler des ERP? Non? Non? À Angers, c'est pas un truc qui vous préoccupe, ça. Les ERP? Les établissements recevant du public? Ah! Les établissements recevant du public. Alors, retenez le mot, les ERP, parce que c'est important. L'église de Saumur, comme l'église d'Angers, avant d'être une salle de réunion où on reçoit du public, c'était un atelier. Et qu'est-ce qu'on fait dans un atelier? On travaille, il y a des outils, il y a de l'outillage, il y a des choses. Ce n'est pas fait pour recevoir du public parce que c'est dangereux pour le public. C'est un lieu où il y a du travail, hein, c'est un chantier. Mais il y a eu un changement d'affectation du bâtiment. Il y a eu des travaux, hein. Beaucoup de travaux. Vous voyez où je veux en venir? Dieu a opéré un changement d'affectation de ma vie, de mon corps. Avant, il était très occupé à faire beaucoup de choses, à travailler à beaucoup de choses pour cette terre, pour ce monde, pour moi. Et il y a eu un changement d'affectation. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. Il appartient à Dieu. Il est consacré à Dieu pour le servir et le glorifier. Il a changé de propriétaire. Il est saint. Je suis saint. Mais en même temps, je suis devenu ERP. Nos vies accueillent l'autre.
Nos vies sont tournées vers l'autre. C'est plus un chantier fermé au public, mais c'est un chantier ouvert pour manifester, pour donner l'amour de Dieu qui est en moi. Parce que le cœur du Lévitique, ça reste ce verset, je l'ai dû le remettre, voilà, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur, je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est la sainteté en manifestation concrète. C'est ça l'Église. C'est ça le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Le peuple saint. C'est une sainteté profonde intérieure, cette nature nouvelle que Dieu m'a donnée, cette œuvre que le Saint-Esprit fait en moi, mais qui se concrétise et se manifeste dans une relation d'amour mutuel, concret. C'est un évangile vivant, un évangile visible à tous. On prie ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, ton évangile nous bouleverse, nous bouscule. Viens nous chercher au plus profond des retranchements de nos pensées, de nos émotions. Nous sommes obligés, face à ta parole, Seigneur, de nous abaisser notre garde, abaisser nos cœurs et te laisser agir en nous et nous convaincre par ton Saint-Esprit. Oui, fais cette œuvre maintenant. Éclaire-nous. Et je fais la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions comprendre ces choses et saisir ce qu'est la sainteté d'un Dieu si grand, cette réalité que tu es le Dieu saint, mais aussi cette réalité que tu nous as donnée d'être saint, partageant cette nature avec un Dieu saint. Merci Seigneur de le révéler à nos cœurs et d'en vivre toutes les conséquences concrètes, pratiques, au quotidien, dans nos relations les uns avec les autres, et dans nos relations avec le monde, afin que tous voient que tu es le Dieu saint, et que tu as un temple sur cette terre qui s'appelle l'Église. Merci Seigneur, merci de l'œuvre que tu fais maintenant. Merci notre Dieu. Alléluia.